Vous écoutez, on lit pour vous.
Et si manger végétalien était aussi un geste féministe? Un texte de Magdalene Boutros paru le 15 septembre 2025 dans Le Devoir. Le féminisme et le végétalisme combattent-ils les mêmes schèmes d'oppression? C'est la thèse développée par l'autrice et chercheuse états-unienne Carol G. Adams dans son livre culte « La politique sexuelle de la viande », dont une version française vient d'être publiée au Québec. Et vulgarisée par l'autrice et avocate québécoise Suzanne Zakour dans son essai « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ?» Les deux, le féminisme et le végétalisme, c'est de la résistance. C'est le rejet de la culture patriarcale, explique Carol G. Adams, jointe chez elle au Texas. Chacun constitue une rébellion envers la culture dominante, démontre-t-elle dans son ouvrage, dont la version française est publiée aux éditions du Remue-Ménage. En lançant la version originale « The Sexual Politics of Meat », en 1990, l'autrice voulait proposer une perspective féministe sur la consommation d'animaux. Au fil des pages, on comprend que le féminisme représente la théorie et le végétarisme compose un élément de la pratique. Dans un cas comme dans l'autre, des mécanismes de domination similaires sont à l'œuvre, explique celle qui a arrêté de manger de la viande il y a une cinquantaine d'années et qui a œuvré auprès des femmes violentées. Lorsque le végétarisme remet en question l'objectivation des animaux et parle de violence, il critique la culture patriarcale sans le reconnaître, fait-elle valoir en entrevue. Et si nous voulons changer le monde en tant que féministes, quel est le rôle d'un régime alimentaire violent dans notre vision? Historiquement, la consommation de viande a été associée au pouvoir masculin et à la virilité. Et elle l'est toujours, analyse Madame Adams. La masculinité, en tant qu'acte performatif, encourage les hommes à manger de la viande à chaque repas, dit-elle. Il y a encore toutes ces moqueries qu'on entend lorsqu'un homme ne mange pas de viande. C'est comme s'il fallait qu'ils renouvellent leur carte d'homme à chaque repas. Ma carte de bibliothèque est valide pour 3 ans, mais la carte d'homme, elle, se perd s'il mange quelque chose de végétalien pour le lunch, lance l'autrice dans un sourire. La victime disparaît. À l'intersection de la consommation carnée et des violences envers les femmes se trouve le concept de référent absent, développé par Carol G. Adams au fil de ses recherches ancrées dans l'histoire, la littérature et la publicité. Le référent absent permet de comprendre la rupture du lien entre la victime et la violence commise à son endroit, ce qui la rend acceptable. Par l'acte du dépeçage, l'animal, à travers son nom et son corps, est rendu absent en tant qu'animal afin que la viande puisse exister, explique-t-elle dans son livre. Le langage fait aussi son œuvre, nous faisant oublier le cadavre au profit des pièces de viande. Un bœuf devient ainsi un roast beef, du steak ou encore de la viande hachée. Un porc se transforme en jambon, en bacon, en saucisse, et ainsi de suite. De la même manière, le patriarcat efface les femmes comme sujet, permettant l'exploitation de leur corps, soutient Madame Adams. L'exemple le plus éloquent, à ses yeux, se trouve dans le débat sur l'avortement. Les militants anti-avortement montrent uniquement un fœtus flottant dans un utérus, sans qu'il soit dans le corps d'une femme, fait-elle remarquer, en parlant d'une dépossession du corps des femmes, faisant d'elles des référents absents. Des exemples pullulent aussi en publicité, où les femmes sont plus souvent représentées de manière fragmentée que les hommes, sans tête ou seulement avec leurs jambes. Bien que The Sexual Politics of Meat ait été écrit il y a 35 ans, l'ouvrage est encore tristement d'actualité, souligne son autrice. J'aimerais qu'il ne soit qu'un document historique. Pourtant, la mainmise de la droite sur à peu près tout a aussi inclus l'affirmation et la réhabilitation de la consommation de chair animale comme marqueur identitaire pour se sentir homme, surtout pour un homme blanc. Justification commune. Signe également de la pertinence actuelle de cette thèse, des autrices continuent de s'inspirer des écrits de Carol G. Adams pour explorer les liens entre féminisme et végétalisme et entre domination masculine et exploitation animale. Parmi elles se trouve Suzanne Zakour, qui vient de publier aux éditions Michel Lafon l'essai « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ?». Dans cet ouvrage grand public, l'avocate québécoise spécialisée en violences conjugales et sexuelles décortique les justifications communes au spécisme et au sexisme enracinées dans notre société qui normalise et banalise les violences envers les femmes et envers les animaux. De la même manière qu'un homme ne viole pas comme ça, sans contexte, une personne ne mange pas un animal sans raison, écrit-elle, en soulignant que notre société prédispose les hommes à violenter les femmes et nous conditionne à manger des animaux et à y être indifférents. Dans les deux cas, ces violences s'appuient sur des mythes voulant que c'est naturel, que ça a toujours été comme ça et que c'est une affaire purement privée, analyse-t-elle en entrevue. Pour nier des violences sexuelles, on dit que la femme a consenti. C'est la justification par excellence, rappelle celle qui a précédemment publié La fabrique du viol. Étonnamment, par la publicité et les croyances populaires, ce discours est aussi propagé pour les animaux qu'ils acceptent d'être exploités, relève-t-elle. Si on pense à la vache qui rit, pourquoi elle rit ? Parce qu'elle consent à ce qu'on lui fait. Elle est super contente. On voit ça aussi dans le langage. La vache donne du lait, la poule donne des œufs. Un monde moins violent. L'autrice, qui a cessé de manger de la viande lorsqu'elle était adolescente, cite dans son ouvrage plusieurs études illustrant cette idée, voulant que la viande soit un outil et un symbole du patriarcat. L'une d'entre elles établit que les hommes qui adhèrent davantage aux stéréotypes de genre mangent plus de viande et sont moins ouverts au végétarisme. Une image reprise dans le titre du livre mettant en vedette Donald Trump, figure de proue de la masculinité toxique. Même si on n'a jamais vu son frigidaire, on sait très bien que Trump ne mange pas de tofu, souligne Suzanne Zakour. En plaidant pour un rapprochement de ces causes interreliées, la militante végane, qui voit l'exploitation animale comme un angle mort de certaines franges du féminisme, espère susciter des prises de conscience. Puisqu'en comprenant mieux l'oppression des femmes et l'oppression des animaux, on pourra avoir un monde moins violent envers ces deux groupes, dit-elle. C'était « Et si manger végétalien était aussi un geste féministe ?» un texte de Magdalene Boutros paru le 15 septembre 2025 dans Le Devoir.
Un robot humanoïde pour le prix d'un Mac Pro. Un texte d'Alain McKenna, paru le 27 août 2025 dans La Presse. Astro pourrait être votre petit robot à vous seul. Un virage important vers les applications matérielles s'opère ces jours-ci dans le monde de l'intelligence artificielle, IA. Des entreprises ont déjà commencé à vendre des robots humanoïdes animés par l'IA. Certains coûtent moins cher qu'un ordinateur personnel tout équipé. C'est le cas du R1 de la société chinoise Unitri. U-N-I-T-R-E-E. Sa version de base a été mise en vente au cours de l'été au prix de 5 900 US, 8 200 canadiens. C'est le prix d'un Mac Pro d'Apple bien équipé. Avant ça, Unitri a mis au point un robot plus sophistiqué, le G1, destiné au marché des entreprises. Celui-là devrait rivaliser avec Optimus, le robot humanoïde que Tesla aimerait déployer en très grand nombre dans toutes les usines de la planète. La nouveauté avec le R1 est qu'il s'adresse au grand public, aux gens qui, lassés de faire toutes sortes de corvées domestiques eux-mêmes, rêvent de passer avec panache à l'ère de la robotique personnelle. Le R1 mesure 1,2 mètres et pèse 25 kg. Il peut faire tout plein d'acrobaties et, comme le dit Unitri, il ne lui reste qu'à apprendre à accomplir certaines tâches. Il suffira de les lui expliquer. Le R1 est muni des capteurs nécessaires pour dialoguer et il intègre un grand modèle de langage qui promet une interaction vocale naturelle. Ce ne sera probablement pas parfait, mais pour bien des champs, le R1 marque un moment pivot pour la robotique, un peu comme l'arrivée du premier ordinateur personnel il y a 50 ans ou comme le lancement du premier téléphone cellulaire 10 ans plus tard. Une Silicon Valley matérialiste. Reconnue pour ses géants numériques, la Silicon Valley semble vouloir revenir à ses premières amours ces jours-ci en s'ouvrant de nouveau aux applications matérielles. C'est bien beau, l'IA sur un ordinateur ou sur son téléphone, mais pour qu'elle connaisse un succès grand public, cette technologie entièrement dématérialisée doit pouvoir s'affranchir des appareils informatiques et voler de ses propres ailes. C'est en tout cas la pensée d'un nombre sans cesse plus important de gens influents dans le secteur technologique. Des poids lourds comme Amazon mise sur ce virage matérialiste pour se tailler une place dans le marché de l'IA. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et quelques partenaires ont récemment investi 300 millions US, 415 millions canadiens, dans Skilled A1, une entreprise qui compte mettre au point un modèle de langage appelé Skild Brain, S-K-I-L-D, Brain, un jeu de mots qu'on pourrait librement traduire par « cerveau habile », conçu exprès pour animer des robots en tout genre, y compris de forme humaine. Il faut dire qu'Amazon emploie déjà quelques 750 000 robots dans ses usines, répartis en 9 spécialisations. L'enjeu est déjà chiffré. Morgan Stanley calcule que plus de 1 milliard de robots humanoïdes seront employés d'ici 2050 pour accomplir des tâches parmi les moins attirantes pour les humains. Ça peut aller de l'assemblage à la chaîne en usine à la tonte du gazon à votre chalet. Unitree et Tesla ne sont pas seuls dans cette course. On dénombre, en ce moment, plus d'une quinzaine de fabricants qui promettent de lancer ces prochaines années un robot conçu pour épauler ou remplacer des humains dans le secteur médical, en entreprise et dans l'entretien d'infrastructures critiques. Le marché de l'emploi dans la ligne de mire. Le marché du travail représente environ la moitié du produit intérieur brut mondial. Si on le considère comme un marché potentiel pour ces robots, il représente une valeur à saisir pour ces fabricants de 40 000 milliards. Sans surprise, c'est la principale cible de ce virage matériel de l'IA. C'est une autre menace qui pèse sur la prospérité économique des travailleurs qui devront rivaliser pour conserver leur emploi avec des robots qui ne se fatiguent jamais, même s'ils répètent sans cesse la même tâche, aussi fastidieuse soit-elle. En théorie, la plus grande promesse de la technologie est de stimuler le progrès social et de rehausser le bien-être collectif. Rappelait le mois dernier le Forum économique mondial dans un rapport sur les robots humanoïdes. Le Forum invite les gouvernements à encadrer cette technologie le plus tôt possible pour éviter les dérapages. Un rappel crucial lorsqu'on voit comment la technologie accroît plutôt les inégalités sociales à l'heure actuelle. Si vous mourrez d'envie d'employer un robot comme le R1 d'Unitree pour s'occuper de votre jardin, rappelez-vous qu'un paysagiste de votre région risque de perdre un client potentiel. C'était un robot humanoïde pour le prix d'un Mac Pro. Un texte d'Alain McKenna, paru le 27 août 2025 dans La Presse.
Après Harry Potter, un texte de Marianne Duguay, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Je cherche un livre pour une jeune fille. Elle a vraiment aimé Harry Potter. Les libraires doivent parfois faire une recommandation pour un gamin ayant adopté le célèbre magicien. Quoi conseiller après ce succès international qui a fait rêver autant d'enfants et d'adultes avec la fameuse bière au beurre? Certains auteurs et autrices, comme Jessica Townsend, Jodie Lynn Anderson et Angie Thomas, se sont pris au jeu d'écrire des histoires de préadolescents plus ou moins ordinaires, se retrouvant par la force des événements dans un univers fantastique. Ayant la réputation d'être Harry Potteresque, la série Nevermore de Jessica Townsend, Pocket, répond aux critères d'appréciation des fans du magicien. Une fillette de 11 ans ayant une vie difficile, un être flamboyant qui la transporte dans un monde magique, une école de pouvoir étrange, une ennemie jurée et un vilain qui veut mettre la main sur l'héroïne. En effet, Morrigan Crow est détestée de tous dans son patelin, car elle serait maudite et causerait les pires malheurs aux gens qui la croisent. Le jour de ses 11 ans, moment où elle devrait mourir selon une prophétie, un homme original, Jupiter North, la transporte à Nevermore, un royaume résolument incroyable avec un énorme chat qui parle et des meubles qui changent de forme selon l'humeur du propriétaire. Morrigan sera recommandée par North pour entrer à la prestigieuse école de sortilège où elle devra relever des défis sans même savoir quel est son fameux don. Une aventure cousue de mystères et d'émerveillement. Dans la même veine, la trilogie « Les 13 sorcières » de Jodie Lynn Anderson, petit homme, raconte l'histoire de Rosie, une adolescente qui découvre un autre univers rempli d'enchantements et de fantômes. Elle réalise qu'elle est chasseuse de sorcières comme sa mère, qui est sous l'emprise d'une grande malédiction l'empêchant de s'occuper d'elle. Rosie doit donc identifier ses habiletés pour la protéger et surtout la sauver. Cette série est portée par la littérature jeunesse, comme en témoigne la dédicace du premier tome « Pour Harry qui m'a sauvé si souvent ». La série « Les 13 sorcières » possède une intrigue soutenue et émue par son exploitation de la relation mère-fille. Dans « Nick Blake et le secret de la prophétie, Nathan », Angie Thomas nous présente Nick Blake, une « remarkable parmi les ordinaires ». Lorsque son père est accusé d'un horrible crime, Nick est propulsé au milieu d'un oracle dont elle ignorait l'existence. Avec ses amis JP et Alex, elle révélera des aptitudes surnaturelles et tentera de disculper son père en se lançant à la recherche d'un dangereux artefact fantastique. Même si des thèmes plus sombres, comme l'injustice et le racisme ainsi que les violences qui en découlent, y sont abordés, Nick Blake et le secret de la prophétie reste un roman pour préadolescents empreint de péripéties, d'humour et d'espoir. Avec Alfie Bloom et l'héritage du druide, Michel Lafont, série épuisée, disponible en version numérique, le premier tome de la série Alfie Bloom, Gabriel Kent introduit une histoire de formation, une quête identitaire. Alfie, un garçon ordinaire et réservé, a perdu sa mère et vit avec un père inventeur et pauvre. Un jour, il reçoit le château d'Exbridge en héritage de son grand-père. Enfin une vie confortable. Mais dans un endroit curieux, avec des majordomes aux facultés particulières et des peaux d'ours volantes, Alfie s'aperçoit qu'il est le gardien d'une magie vieille de plusieurs siècles, ce qui le poussera à devoir prendre des décisions cruciales et à s'entourer de personnes de confiance. Alfie Bloom traite avec humour d'amitié et d'amour filial. Des personnages attachants et rigolos nous font part de secrets à travers trois délicieux tomes. Une histoire de loyauté et de sacrifice où les classes sociales sont très marquées. Voici ce que nous propose l'autrice Heather Fawcett dans « Le secret des sorciers » Pocket. Automne, 12 ans, anti-héroïne en marge de la société, travaille comme gardienne d'animaux merveilleux à l'école de sorciers Beaunâtre. Un an auparavant, Hiver, son frère jumeau, a disparu, et tout le monde, sauf Automne, croit qu'il a été dévoré par le dragon creux. Avec l'aide de Kay Morrigan, le meilleur étudiant de l'école et quelqu'un d'intrigant, la jeune fille part à la recherche d'Hiver. Elle doit aussi composer avec un Boggart, créature changeant de forme qui a un faible pour elle. Bref, Automne est prête à tout pour son frère. Le récit amène les protagonistes dans une double quête, soit celle de l'entraide et celle de la compréhension de soi. Par leurs aventures, Automne et Kay apprendront un peu plus qui ils sont et trouveront leur voie respective. Seul auteur dans cette sélection, Handy Sagar offre la fiction La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes, Pocket. Félicité Fox, une adolescente avec des oreilles de renard, est ostracisée et devient une bête de cirque enfermée dans une cage sans famille. Un jour, elle apprend d'un corbeau albinos qu'elle est une estrangeline, une personne mi-humaine et mi-sorcière. Elle décide alors de s'évader, mais pour y parvenir, elle doit conclure un pacte sombre avec le propriétaire du cirque, Maître Chantepleur du royaume des défunts. Aidée de Miss Dumpling, propriétaire d'un salon de thé enchanté ambulant, Félicité prendra conscience de ses talents extraordinaires dans le but de rompre ce lien avec Chantepleurs. Cette histoire colorée et surprenante démontre l'importance de la solidarité. Le deuxième tome, La fille renard et Le festin fantastique, vient récemment d'arriver en librairie. Sans aucun doute, J.K. Rowling a fait des émules. Plusieurs autrices et auteurs ont recréé des univers alternatifs avec des préados à la recherche de leur identité qui inspire les jeunes lecteurs et les font rêver à un ailleurs où tout serait possible. Cette sélection parmi la panoplie de romans existants vous donnera peut-être envie d'explorer d'autres mondes fantastiques en compagnie de jeunes héros, tous plus motivants et courageux les uns que les autres. C'était « Après Harry Potter », un texte de Marianne Duguay, paru le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.
Une mairesse en campagne à Longueuil. Un texte de Louise Leduc, paru le 23 septembre 2025 dans La Presse. Printemps 2026. Catherine Fournier, future mairesse. Quelques rares personnes qui maîtrisent mieux l'orthographe que le second degré ont réprimandé la mairesse de Longueuil sur Facebook pour son mauvais français. Mais des milliers d'autres internautes ont bien compris le jeu de mots. Catherine Fournier est enceinte. En entrevue avec La Presse, elle précise qu'elle est à 12 semaines de grossesse. À la fin de la campagne électorale qui vient de commencer, elle en sera à 20 semaines et aura vraisemblablement une bonne bédaine. Des proches m'ont demandé si j'allais annoncer la bonne nouvelle après les élections, mais il n'était pas question pour moi de me demander chaque matin ce que j'allais porter pour éviter que ça paraisse. Je voulais être transparente. Et une grossesse, ce n'est pas quelque chose qu'on a à cacher, souligne la future maman. Pour Mme Fournier, une annonce seulement après la campagne aura envoyé le message inverse de ce qu'elle souhaite transmettre. Cela aurait signifié aux femmes qu'une maternité doit être dissimulée, pour leur éviter d'être pénalisées au travail. Bien sûr, il s'agit d'une réalité pour trop de femmes, regrette-t-elle. J'ai au contraire envie d'envoyer un petit clin d'œil aux employeurs qui hésitent à embaucher ou à promouvoir une femme désireuse d'avoir un enfant ou qui refusent de le faire, affirme-t-elle. Les employeurs doivent prendre conscience du ridicule de tout cela, constater à quel point ils sont déconnectés de notre époque. Craint-elle néanmoins que sa grossesse lui fasse perdre des votes? La réception presque unanimement positive à son annonce la porte à croire que ça ne sera pas le cas. Il y a 20 ans, il y a 10 ans même, ça aurait peut-être été plus mitigé, avance-t-elle. On n'en est plus là, selon elle. Fait à noter, à Longueuil, un seul candidat est pour l'instant dans la course à la mairie. Il s'agit de Sacha Parisella, un ex-conseiller politique qui n'a pas encore de candidat dans les districts. Contrairement à tant d'autres femmes, Catherine Fournier note qu'elle a l'immense privilège d'avoir un horaire flexible et d'être bien entourée par ses collègues, qui ont d'ailleurs été discrets, la nouvelle leur ayant été annoncée il y a quelques semaines, sans qu'il y ait de fuite. Au besoin, le maire suppléant pourra ponctuellement la remplacer, indique Mme Fournier, bien qu'elle doute que ça soit nécessaire. Comme le permet la loi provinciale, adoptée en 2024 pour encourager des candidatures aux élections municipales, elle pourra siéger au conseil municipal à distance si elle conserve son poste de mairesse. Elle envisage de se prévaloir de cette possibilité les premiers mois, mais probablement pas toute l'année, même si la loi l'autorise. La jeune mairesse compte mettre sur pause ses activités publiques pendant un certain temps, mais elle est convaincue qu'elle n'aura aucune difficulté à faire tout le reste. Lire des dossiers pour prendre les bonnes décisions, faire le lien avec l'administration publique, etc. Mère au pouvoir? Son désir de maternité n'explique qu'une partie de sa décision de passer de la politique provinciale à la scène municipale en 2021. Mais cet élément a tout de même joué un peu dans sa décision, évoque-t-elle. Car d'être députée provinciale ou fédérale au demeurant, c'est autrement plus compliqué quand on est parent. Pour une mère comme pour un père. Cela suppose d'être souvent très loin de la maison pendant plusieurs jours, écartelé entre son travail dans sa circonscription, celui dans la capitale et sa famille. C'est ce qui a amené la députée libérale Marwa Ritzky, mère de deux jeunes enfants, a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales. Comme mairesse, Catherine Fournier, elle, est tout près de la maison. « Je vais être une mère présente auprès de mon enfant, » dit-elle. « Je pourrai rentrer chez nous tous les soirs. On s'en reparlera peut-être dans un an. Je ne vais pas présumer de la façon dont ça va se passer. Mais j'ai l'impression que plusieurs facteurs militent pour que les choses se déroulent bien. » L'enfant a un père et ira au service de garde en temps opportun aussi, fait-elle observer. De nos jours, je pense que tout le monde est prêt à cette nouvelle réalité, celle d'une femme qui peut très bien exercer le pouvoir, tout en étant mère, dit-elle. Des précédents ici et à l'étranger. D'autres ont déjà pavé la voie. En mars, Carina Gould est devenue la première femme ministre au Canada à prendre un congé de maternité à la naissance de son fils. Pas très long, le congé, on s'entend. Son fils, tout juste âgé de 3 mois, Madame Gould est aussi devenue la première ministre à allaiter à la Chambre des communes. Au Québec, Pauline Marois a eu 4 enfants, tout en menant sa carrière politique. Ailleurs dans le monde, Bénazir Bhutto est devenue enceinte en 1990, alors qu'elle était première ministre du Pakistan. Elle a gardé sa grossesse secrète, y compris pour plusieurs de ses collègues, jusqu'après son accouchement. Je ne suis pas la première femme à faire plusieurs choses en même temps. Je ne suis pas la première femme à travailler en ayant un bébé, avait-elle déclaré. Sitôt après avoir eu le feu vert de son médecin, elle est retournée au travail. 37 ans plus tard, en Nouvelle-Zélande, ça s'est passé autrement, en soulevant tout de même beaucoup de questions. Lors de la campagne électorale de 2017, l'ex-première ministre Jacinda Ardern, qui n'avait pas encore d'enfant, a dû répondre à des questions sur son désir ou non d'être éventuellement mère. Moi, ce genre de questions ne me dérange pas, parce que j'ai décidé d'être ouverte sur le sujet, a-t-elle répondu. Mais pour ce qui est des autres femmes, il est totalement inacceptable, en 2017, qu'elles doivent répondre à cette question à leur travail. Il appartient aux femmes de décider quand elles veulent avoir des enfants. Cela ne doit pas avoir d'influence sur le fait qu'elles soient embauchées ou pas. Madame Ardern a annoncé attendre un bébé quelques mois plus tard. « Je suis enceinte, pas handicapée », a-t-elle fait observer. À la naissance de l'enfant en 2018, elle a pris 6 semaines de congé de maternité. Ses fonctions ont été assurées en son absence par le vice-premier ministre. Pendant la pandémie, elle s'est particulièrement démarquée par sa gestion efficace de la crise. C'était une mairesse en campagne à Longueuil. Un texte de Louise Leduc, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.